Vous êtes sur RTL.
Et à 18h49, place au kiosque cette fois-ci.
Et le kiosque d'RTL Soir, tous les soirs, c'est Catherine Boulet, c'est Christian Ménanteau et c'est Julia Molko qui viennent nous raconter l'actualité à leur façon. Ce sont leurs choix édités, assumés. Et on commence toujours par l'international, c'est la tradition. Bonsoir à tous les trois, bonsoir Catherine.
Salut,
bonsoir.
Bonsoir.
Et vous avez choisi de nous parler de la France victime de fake news, Catherine. Une journaliste britannique basée à Paris est montée au créneau pour rétablir certaines vérités.
Oui, fake news, à l'échelle de tout un pays, c'est pas commun, vous allez comprendre. La France est en pleine guerre civile. Emmanuel Macron se cache dans son château. Il est protégé 24 heures sur 24 par l'armée. Il y a eu des centaines de morts lors des manifestations des Gilets jaunes. Et les Britanniques n'en savent rien, parce que le gouvernement britannique a interdit aux médias d'en parler.
C'est le Gorafi, votre truc, ou c'est
Mais
vrai
Mais il y a pire. Attendez, j'ai pas encore complètement fini le tableau. L'Union européenne a acheté des vidéos des manifestations pour être sûre que l'affaire n'allait pas être sue. Donc voilà d'où on part. Alors évidemment, tous les Britanniques ne croient pas à ça, c'est une minorité, mais ça faisait des semaines que ça tournait, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, dans un article du Guardian, la journaliste Kim Wilshire, la correspondante à Paris du journal, a choisi de préciser les choses. Non, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas fait une centaine de morts, mais 14, et essentiellement des accidents de voiture. Et puis, oui, constate-t-elle, c'est vrai, les Français, ils détestent leur président comme ils détestent tous les présidents, toujours, jusqu'au jour où il décède. Et là, il devient un super-héros national. L'article a suscité une montagne de réactions et d'indignations qui tournent encore sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
C'est incroyable, mais comment expliquer que ces fake news prennent? C'est quand même plus c'est gros, plus ça passe, on est en plein dedans. Hein.
Voilà, j'ai posé la question à Kim Wilshire et écoutez ce qu'elle me répond.
Je pense que ces gens qui sont peut-être traumatisés des divisions depuis 3-4 ans de Brexit disent « Ah bah, ils sont plus dans la merde que nous ». C'est peut-être un côté.
Peut-être une façon de se rassurer finalement, de voir qu'en France c'est pire qu'en Angleterre. C'est une théorie, évidemment c'est un aspect du souci.
Mais il y a bien une source dans cette affaire. Qui manipule? Qui est à l'origine de cette affaire-là?
Alors, vous avez les réseaux sociaux, Twitter
oui, ça,
notamment.
Classique.
Mais après, ce qui est intéressant à voir, c'est que vous avez une chaîne de radio, NBC. Ça s'appelle Leading Britain's Conversation. C'est une sorte d'RMC britannique, mais avec une audience bien plus importante. Et c'est notamment là qu'officie un homme que vous connaissez bien, qui s'appelle Nigel Farage.
Ça dit tout, oui.
Brexit.
Oui,
évidemment.
Oui.
Kim Wilshire, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est elle qui avait confessé Pénélope Fillon à l'époque pour le Guardian, à qui elle avait dit que c'est ça. Hein,
c'est la même.
Ça,
le qu'est-ce Guardian. Que vous faites? Et l'autre lui avait dit bah, rien.
Une très
c'est
bonne ça. Journaliste qui accessoirement cet après-midi suivait la manifestation des avocats et qui, elle, ne sort pas de fake news.
Bon, on va la recevoir un jour, on va l'inviter ici pour nous raconter un petit peu tout ça. On démarre la semaine dans les airs, mais avec un gros bémol, grâce à vous, Christian, ce sera de plus en plus difficile de le faire depuis nos régions. Hein,
oui, absolument, s'envoyer en l'air depuis les régions, bah, ça
joli, Christian,
joli. Plus de la moitié de nos aéroports sont en effet dans l'incapacité de rentabiliser leurs plateformes. Elles sont donc en situation financière délicate. Alors j'ai regardé ça de près et c'est simple, sur 86 plateformes commerciales dans le pays, ben, il y en a 43 qui n'accueillent pas plus de 100 000 passagers par an, ce qui signifie 270 passagers par jour. C'est rien, hein. En fait, il n'y en a que 17 qui réceptionnent au moins 1 million de passagers. Et ça, c'est le seuil de viabilité d'une installation certifiée.
Alors, je ne vais pas vous demander combien ça coûte un aéroport, mais l'idée, c'est un peu quel investissement, quoi.
Une installation de ce type, hein, c'est de la maintenance en infrastructure, des services de sécurité, des pompiers, une tour de contrôle, une logistique très importante au sol. Donc, ce sont des coûts fixes qui sont incompressibles. Et l'environnement technique, il est identique que vous ayez deux appareils ou 50 qui atterrissent tous les jours. Alors, quand certains de nos petits aéroports reçoivent, eux, moins de 10 000 passagers par an, c'est-à-dire 200 personnes par semaine, on peut les compter et leur dire bonjour à chacun, ben l'équation est absolument impossible.
Bah ouais, d'accord, mais pour toutes ces petites villes qui sont mal desservies par le train, moi je prends le train pour Rodez, parfois
sais que
c'est
vous
une tannée d'aller à Rodez.
Pourquoi c'est une tannée? C'est un bonheur, vous y allez à chaque fois avec le sourire. Enfin,
c'est
vous rigolez. Non, mais c'est vrai que c'est un argument de poids.
On lui dira qu'elle va voir à Rodez, mais plus tard.
Oui, mais là, un truc à Rodez. Donc, mais c'est vrai que pour ces villes isolées, vous venez de citer Rodez, mais il y a aussi Aurillac, Périgueux et bien d'autres. Alors, pour elle, c'est un outil de désenclavement. En tout cas, elle le considère comme tel. Sauf que c'est d'abord et avant tout pour elle maintenant un défi financier qui pèse lourd sur les contribuables locaux, alors même qu'ils sont finalement très peu nombreux à les utiliser. Hein. Conserver 46 aéroports qui n'accueillent que 0,3% du trafic passager du pays, bah c'est de plus en plus problématique, même si nos élus locaux en font encore un symbole statutaire.
Mais évidemment, que doivent être les services publics ou que ne peuvent-ils plus être ? C'est un vaste débat qu'on ne tranchera pas ce soir. D'ailleurs, on va sortir à la place. On va voir un spectacle musical qui n'est pas complètement comme les autres, Julien.
Ah, ça, c'est parce que Alex Jaffray, qui fait ce spectacle, ouais, n'est pas un homme, ni même un musicologue, ni même un musicien comme les autres. Et avec son spectacle Le Son d'Alex, il nous en apprend plus que personne sur la musique. Alors, c'est un seul en scène. Enfin, il est quand même accompagné d'un sampleur. Et sur scène, Alex Jaffray nous retrace la grande histoire de la musique qui, rappelons-le, commence il y a 40 000 ans. Alors il le fait avec beaucoup d'humour, mais surtout avec beaucoup de connaissances. Il nous fait remonter le temps et il nous rappelle, s'il le fallait, que le jazz ou encore la variété, en passant par le rap, eh bien tout, absolument tout, vient du classique. Et comment fait-il tout ça? Eh bien en truffant son spectacle de démonstrations qui vont vous permettre de briller en société.
Par exemple, vous connaissez ce morceau?
On ira.
Oh, Joe Dassin.
Où tu voudras, quand tu voudras.
Joe Dassin, vous avez la mélodie en tête? Je vous la joue au piano vite fait. Vous voyez, vous prenez cette mélodie, les mêmes notes, hein, vous les jouez juste à l'envers.
Destiné.
Oh, ouais.
Bon, c'est génial, non? Bon, est-ce que vous en voulez encore un petit?
Allez.
Alors
allez,
écoutez,
allez.
Ça c'est l'intro d'une chanson d'Aznavour. Si on la ralentit un tout petit peu et qu'on ajoute un pied de grosse caisse, et ben ça devient un morceau de Dr. Dre de Eminem. Bon bah voilà, des moments formidables comme ça.
Dr. Dre.
Ouais, exactement. Alors des moments formidables comme ça, il y en a plein le spectacle. C'est drôle, on découvre énormément de choses. Alex Jaffray dit tout haut ce qu'on pense tout bas, y compris sur la pauvreté de certaines paroles de certaines chansons, et je ne vise personne. On ressort de là avec une envie d'écouter de la musique et surtout de retourner le voir lui, Alex Jaffray, parce qu'il est passionnant. C'est vrai qu'on l'a vu longtemps à la télé le matin et il est encore meilleur sur scène. Bref, ça s'appelle Le Son d'Alex. C'est au Lucernaire du jeudi au samedi à 21h30. Franchement, ce serait dommage de rater ça.
Il faut qu'il tourne en région un peu.
Mais il a commencé en région, il a bien tout testé.
Vous l'aimez beaucoup.
Mais je le connais pas très bien.
C'est vrai, vous l'aimez. On sent que vous l'aimez beaucoup.
Il habite à Rodez.
Ah oui, c'est ça, est-ce qu'il habite à Rodez?
Elle m'a...